Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des suites de l'attaque sur The DAO. Donc nous avions déjà réalisé un épisode à ce sujet et aujourd'hui, nous allons voir comment la situation a évolué avec David Ron.
Bonjour.
Et Alexandre David.
Bonjour.
Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et Vladimir Collat.
Bonjour.
Alors Vlad, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous rappeler ce qu'est une DAO ?
Alors, la DAO, déjà on réexplique juste Ethereum. Donc en fait, Ethereum est une blockchain qui sert aujourd'hui principalement de crypto-monnaie, mais qui peut servir à d'autres choses. Et en fait, la DAO, c'est une sorte de fonds d'investissement en Ether, donc avec la monnaie de Ethereum.
Alors qu'est-ce qui la différencie ? Qu'est-ce qui différencie ce fonds d'investissement d'un fonds d'investissement traditionnel ?
Donc déjà, ça a été créé par un crowdfunding et la principale différence par rapport à un fonds classique, c'est que dans un fonds classique en monnaie dollar euro, c'est tu soumets un fonds et tu as une équipe de professionnels qui est là pour placer ton argent en bourse, etc. Alors que sur la DAO, l'idée c'est de pouvoir financer des projets. Donc les projets sont soumis. Il y a une espèce de filtre avant par certains bénévoles, je crois que ça s'appelle les curateurs, qui sélectionnent les projets et ensuite les gens qui ont des parts de la DAO, donc qui ont investi dans la DAO, valident et votent oui ou non s'ils investissent dans tel ou tel projet.
C'est exactement le principe du crowdfunding, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires et tu votes directement pour les projets qui te plaisent.
Alors, l'attaque, elle a consisté en quoi ?
Alors, c'est pas vraiment une attaque, hein. C'est quelqu'un qui a trouvé un bug et qui l'a exploité de manière astucieuse pour siphonner pas mal d'argent. À l'époque, il avait siphonné un tiers de l'investissement initial dans la DAO. Et donc, pour les gens qui veulent connaître le détail du bug, je vous invite à réécouter l'épisode où on en a parlé. Mais du coup, le problème se posait de savoir est-ce que la personne malicieuse, comme dirait Hervé, allait pouvoir récupérer ses 60 millions de dollars ou pas. Puisque dans la DAO, il y a quand même un délai de rétractation, enfin, il y a un délai, on va dire, de prise en compte de 28 jours. Donc le projet avait 28 jours pour trouver une porte de sortie et savoir s'ils allaient autoriser l'attaquant à convertir ses ethers en dollars ou pas.
Et juste pour détailler l'attaque, en fait, c'est ce qui a été réalisé, c'est comme si quand tu allais au distributeur de billets, au moment où tu veux récupérer 50 euros, tu tapes 50 euros, le billet sort, et à ce moment-là, avant que ce soit soustrait à ton compte, tu peux appuyer sur un autre bouton qui te demande à nouveau 50 euros. Et donc, en fait, il y a une espèce de boucle comme ça qui te permet de récupérer de l'argent sans que ce soit débité de ton compte. C'est à peu près ça, on va dire.
Ouais, c'est une attaque ultra basique. Hein. Ça marche dans toutes les machines à café de France et de Navarre. Si tu enlèves ton badge NFC exactement au bon moment, tu as le café gratuit.
C'est ça, in race condition.
Alors David, est-ce que tu peux te présenter en deux mots à nos auditeurs, bon, qui te connaissent déjà pour la plupart, pour les plus fidèles d'entre eux ?
Bon, bonjour à tous, David Ron de Zurich, donc software engineer. Je suis impliqué dans la communauté Ethereum depuis bientôt maintenant un an. Et j'organise des events autour de ça et je crée des outils, donc des tools et aussi d'autres projets sur la machine virtuelle Ethereum et sur tout ce qu'il y a autour.
Merci. Et toi, Alexandre, alors, est-ce que tu peux te présenter en deux mots ?
Pas en deux mots, mais en une phrase. Donc, je m'appelle Alexandre David. Je suis actuellement formateur chez Eureka Certification, organisme de formation en France à proposer des formations certifiées et certifiantes sur ce que j'appelle les protocoles de registre distribués avec et sans permission. Ce qu'on appelle plus communément blockchain.
Alors, David, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est terminé cette histoire ? Parce que toi, on t'avait interviewé début juillet au plein cœur de l'événement, mais maintenant, on en est où ?
Alors maintenant, le hard fork a eu lieu. Donc maintenant, deux crypto-monnaies.
Tu peux reprendre pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode, tu peux expliquer en deux mots ce qui se passe sur la blockchain Ethereum.
Alors, suite à l'attaque qui s'est passé sur le projet qui s'appelle le DAO de DAO, où il y avait une somme de 150 millions de dollars qui était dans le smart contract. Et donc, un hacker a volé 30% de la valeur qui était dans ce smart contract, donc 50 millions. Et suite à cette attaque, la fondation Ethereum et d'autres personnes qui sont impliquées dans le projet ont décidé de tout d'abord essayer de limiter les possibilités de fuite de cet argent avec un soft fork, qui malheureusement n'a pas fonctionné, et ont donc, relativement dans la hâte, appliqué un hard fork qui a donné naissance en fait à deux chaînes de blocs, un Ethereum et l'autre le nouveau Ethereum classique. Les avis divergent lequel est le nouveau ou l'ancien.
Si je peux intervenir, en fait, c'est pas vraiment deux chaînes, ça fait une et demie. Et en réalité, la chaîne classique reste la chaîne officielle dite Homestead. Et ce qui se passe, c'est que via le fork, on a créé une sorte d'alternative, une réalité alternative dans laquelle le contrat de DAO se retrouve complètement transformé. C'est-à-dire que c'est plus une distributed autonomous organization, mais c'est un contrat de withdrawal, c'est-à-dire qu'on va simplement retirer les Ethers qui nous appartenaient lorsqu'on a investi dans The DAO. Donc, en fait, Ethereum classique, c'est Ethereum, et Ethereum dit officiel, aujourd'hui, c'est un fork de l'Ethereum dit normal, mais supporté par l'équipe, l'Ethereum Foundation. Ce qui fait que, bah, effectivement, cette nouvelle chaîne est un peu plus officielle, on va dire. En tout cas, là, le soutien de l'Ethereum Foundation.
Et des utilisateurs. C'est surtout ça qui a fait pencher la balance.
Et pas de tous les utilisateurs, en réalité.
La majorité.
Pas une majorité non plus, en fait. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans ces systèmes-là, il y a très peu de personnes qui participent, il y a énormément d'abstention. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour voir ce que c'était et qui sont repartis. Donc, faut faire très attention. Il y a aussi une part de communication qui est très importante à prendre en compte. Généralement, on parle toujours de technologie. Il faut vraiment comprendre que 99% du schmilblick, c'est humain. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Et il y a beaucoup de conneries humaines aussi. Le reste, c'est technologique, effectivement. Mais faut vraiment faire attention à tout ça parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on développe toute une narrative sur une base qui est complètement fausse. Enfin, pas complètement fausse, mais un tout petit peu manipulée. Si on peut revenir un tout petit peu, alors je ne veux pas monopoliser la parole, mais si on peut revenir un tout petit peu en avant, c'est-à-dire à l'époque du DAO Zaster, de la débâcle de The DAO, on explique qu'il y a eu un attaquant qui aurait trouvé une faille, c'est complètement faux. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En réalité, c'est un utilisateur sur Reddit qui s'appelle @throa. Qui a averti justement l'équipe de Slowkit de la vulnérabilité du recursive call. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Slowkit a réagi très rapidement, en bon professionnel. Et en fait, du 11 au 12, ils ont vraiment comblé la vulnérabilité. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le 13 juin, Slowkit s'est félicité avec un communiqué de presse pour expliquer qu'effectivement, ils ont trouvé la vulnérabilité et que, regardez, nous, ben, on agit très rapidement et on a corrigé tout ça très rapidement. Le problème, c'est que quand vous êtes dans un réseau en pair à pair et que vous patchez effectivement une vulnérabilité, il faut la patcher de façon furtive. Parce que sinon, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des opportunistes qui vont tout simplement consulter le GitHub, qui est public, et qui vont exploiter cette faille. D'ailleurs, il n'y en a pas eu qu'un seul attaquant, et ça donnait des idées à tout un tas d'opportunistes. Donc moi, j'aime pas le terme attaquant, je préfère le terme opportuniste. Faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, la narrative qui est construite, c'est que c'est les pauvres petits Slowkit, les pauvres petits dirigeants de The DAO qui sont fait hacker. C'est faux. C'est eux qui ont mal déployé leur patch. Voilà, c'est, je pense que déjà quand on...
Ouais, enfin c'est pas parce que t'as une grand-mère dans la rue avec un cabas ouvert où tu vois son portefeuille que tu vas lui piquer le portefeuille.
Oui, mais alors après...
Sur Internet, si.
C'est ça, après, c'est dans ces systèmes-là, après, vous avez la tentation de voler et on va voir ça un peu plus loin dans l'épisode quand on va en discuter, mais en fait, qu'on soit white hat ou black hat, la tentation est toujours présente.
Mais c'est quand même énorme ce que tu dis, parce que ce que tu veux dire, c'est... En gros, il faut patcher. Enfin, les systèmes, c'est les blockchains, c'est ouvert, c'est transparent, c'est consultable par tout le monde. Mais au niveau du code, il faut que ce soit opaque, il faut que les messages de commit soient complètement abscons et que les vulnérabilités soient corrigées discrètement sans avoir de CVE à signer, etc.
Ouais, c'est, ouais. C'est ça la découverte hein, de ces technologies, c'est-à-dire que ça fait partie de l'expérience. Et ça doit être transparent, et la question qu'on peut se poser, c'est à quel point.
Ah mais là, c'est tout le contraire de la transparence. Hein. Ouais, là, c'est impossible d'avoir la moindre confiance. Ça pue l'arnaque. Je suis novice, hein, mais alors là, tout de suite, ça y est, je fais plus du tout confiance, moi. Hein.
David, tu avais l'air de vouloir réagir.
Alors, je voulais juste revenir sur un peu la discussion du terme utilisateur et une des choses qui est différente de, par exemple, ce qu'on a chez Bitcoin, où on a d'un côté les mineurs et de l'autre les utilisateurs, ceux donc qui ont des Bitcoins, dans le monde Ethereum, en fait, on a trois intervenants, on a trois groupes qui sont les mineurs, les utilisateurs, donc ceux qui ont des Ethers, et les développeurs, donc les groupes qui ont des projets ou bien même des plus gros groupes style ConsenSys qui ont énormément de projets à l'intérieur. Et il est vrai que les utilisateurs, bon, il y en a certains qui se sont prononcés, qui ont même investi dans le Ethereum classique parce qu'ils ont décidé que du point de vue idéologique, ça les correspondait plus. Mais c'est vrai qu'on a vu dans le monde des projets et donc des développeurs un soutien plus fort du côté du Ethereum qui est soutenu par la fondation, et ils se sont rangés du côté de la fondation. Donc, quand on dit les utilisateurs ne les ont pas vraiment suivis, je trouve ça pas tout à fait correct, parce que ça dépend de quels utilisateurs on parle.
Alors, en fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que on va se baser en fait sur tous les actionnaires d'Ethereum, hein, si on peut appeler ça comme ça, les utilisateurs, tous ceux qui ont des Ethers. En réalité, il n'y a que 5,5% de ces utilisateurs qui ont participé à Carbon Vote, parce qu'effectivement, on avait d'abord discuté du sujet sur Reddit, et puis Stéphane Tual a changé la plateforme. Et même sur ces 5,5% de participants, il n'y a que très peu, en fait... de personnes qui ont vraiment compris et été averties de l'histoire de The DAO. Moi, j'ai des amis que j'ai convertis depuis des années et qui sont maintenant mineurs sur Ethereum parce qu'ils cherchent à faire de l'argent. Quand je leur ai parlé de l'histoire de The DAO, ils n'en savaient absolument rien. Et quand je leur ai expliqué de quel bord idéologique ils se trouvaient, ils m'ont dit, moi, je m'en moque du moment que je fais de l'argent. Si Dwarfpool... Et pro ou anti-fork, je m'en moque. Moi, je vais là où je fais de l'argent. Et on pourrait même aussi parler du taux d'abstention, mais sur n'importe quel réseau, hein, que ce soit aussi sur Bitcoin ou encore une fois sur The DAO. Dans The DAO, il y avait plus de 90% d'abstention, même 98% d'abstention dans les votes de proposal. Donc c'est encore trop embryonnaire pour vraiment prendre ça au sérieux. Faut vraiment, je pense, avoir un certain recul. Certes, il y a une partie d'idéologie, mais en fait, la véritable application de ces technologies, il ne faut pas se mentir, c'est la spéculation. Voilà, les gens sont là pour faire de l'argent. C'est même le cas sur Bitcoin. Sauf que sur Bitcoin, indirectement, ça sert la sécurité du protocole. Mais pour ça, il faut un peu comprendre la mentalité des Chinois. Mais ça, c'est un autre sujet aussi, Bitcoin. Mais c'est bien de faire la comparaison entre les deux réseaux parce que les deux réseaux se nourrissent. Hein. On dit souvent qu'il y a une concurrence, mais en fait, ils sont vraiment, complémentaires. Voilà.
Moi, je comprends pas bien je comprends pas bien comment ça marche. Parce que moi, je veux juste faire de l'argent. Aujourd'hui, je fais quoi? Je vais sur quel site? Est-ce qu'il y a deux logiciels? Est-ce qu'il y a deux blockchains? Est-ce qu'il y a une blockchain ennemie qui est la même au début et qui fork après? Est-ce que les implémentations sont compatibles entre elles? Enfin, si je vais sur une place de marché échanger mes Ethers contre autre chose, est-ce qu'ils vont prendre mes Ethers classiques? Est-ce qu'ils vont prendre des Ethers NG?
Maintenant qu'on a fini l'épisode The DAO et qu'on a ce hard fork implémenté, en fait, après, ça dépend surtout des exchanges. Et c'est là où, effectivement, ça sert de leçon aussi pour Bitcoin, parce qu'on a eu un hard fork Ethereum, mais on a déjà eu des hard forks sur Ethereum. On est passé de Frontier à Homestead. Et il y a eu aussi déjà des hard forks effectués aussi sur Bitcoin. Et on avait déjà aussi ce risque de ce qu'on appelait à l'époque des Gavicoin, quand le block size debate était un peu sur tous les médias. Il y avait des exchanges qui étaient prêts à vendre des Gavicoin. Là, sur Ethereum, bah, c'est ce qui devait arriver arriva. Idéologiquement, il y avait des personnes qui étaient surpris de devoir toucher au sacro-saint, parce que l'idéologie de ces technologies, c'est, et ce qui est d'ailleurs paradoxal en fait, hein, c'est il n'y a pas d'intervention humaine. C'est-à-dire que ce soit moral ou non, c'est comme ça, ainsi soit-il. Sauf que, paradoxalement, hein, comme je disais, ces systèmes, aujourd'hui, ils ne peuvent pas évoluer sans l'implémentation de mise à jour via intervention humaine. Donc, dire qu'effectivement, comme on disait en introduction, est-ce que les blockchains sont vraiment décentralisées? La réponse est, ne regardez pas le protocole, regardez l'écosystème de la communauté qui est derrière le protocole. C'est ce qui est, pour moi, le plus important. Et ça demande du temps.
Et en fait, c'est le développeur qui contrôle tout.
C'est le développeur qui peut tout contrôler. Après, ça ne veut pas dire que c'est le développeur qui contrôle tout, forcément.
Je précise quand même que nos auditeurs font de la sécurité informatique, ne sont pas forcément experts en blockchain, donc ils ne sont pas forcément au courant de tous les débats.
On peut faire un petit rappel de ce que c'est, parce que c'est vrai que.
Oui, mais quand tu parles de Gavicoin,
taille
de bloc, il faut.
Malheureusement, quand on parle de blockchain, on fait allusion à un protocole de registre. Il faut vraiment comprendre que la blockchain, c'est juste une sortie. C'est un support, en fait, hein, qui permet de vérifier l'état d'un réseau à un instant T. La blockchain est produite par ce qu'on appelle un outil de production qu'on surnomme protocole de validation. D'accord ? Sur Bitcoin, par exemple, le protocole de validation fonctionne en de la proof of work et c'est le protocole Hashcash. C'est la même chose pour Ethereum actuellement. Et sur Ethereum, pour en parler d'Ethereum, parce que ce protocole de validation, il peut changer suivant les réseaux. Sur Ethereum, on a implémenté, pour convaincre les investisseurs lors de la crowdsell il y a un peu plus de 2 ans, d'investir justement dans des Ethers, on a introduit ce qu'on appelle le bombe, comment ça s'appelle, la bombe difficulty, voilà. Ce bomb difficulty est implémenté par défaut, c'est-à-dire que mi-2017, on va arriver sur Ethereum, et peu importe la chaîne, que ce soit Ethereum Fork, c'est-à-dire la chaîne officielle supportée par la fondation, ou Ethereum classique, on va arriver à un niveau de difficulté où plus personne ne pourra participer au protocole de validation, et on va implémenter encore une fois par hard fork. Donc ça, c'est assez rigolo, parce que finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec un Ethereum classique et un Ethereum officiel, mais demain, on pourrait se retrouver avec un Ethereum classique proof of work, un Ethereum classique proof of stake, un Ethereum officiel proof of work, officiel proof of stake. Donc on pourrait se retrouver avec 4 réseaux. Le but de la roadmap à Serenity, c'est d'introduire de la proof of stake. Donc, c'est-à-dire de changer le mode de fonctionnement, le mode de production d'une blockchain. Alors qu'on va plus utiliser de la puissance de calcul, mais on va utiliser les actifs dans le réseau. Ce qui veut dire que ça pose d'énormes questions lorsque vous avez un profiteur, moi j'appelle ça un profiteur, ou même des profiteurs, parce que y a eu 60 millions qui ont été siphonnés, mais il y en a qui ont aussi siphonné 20 000 Ethers par-ci, 20 000 Ethers par-là. Le profiteur, dans un tel protocole de validation en proof of stake, qu'on appelle Casper sur Ethereum, eh ben, il aurait la possibilité de produire 4% des blocs. Ce qui veut dire qu'il serait très important dans le consensus. Donc ça pose aussi ce genre de questions-là. Le hard fork, c'était aussi pas qu'une question d'idéologie, c'était aussi une question de qu'est-ce qu'on fait maintenant.
Ouais, je crois que tu as perdu pas mal de monde. Ce que je voulais dire, c'est par exemple le débat sur les tailles de blocs Bitcoin. Bon, à part les gens qui sont dans la blockchain tous les jours, sinon pour le commun des mortels, même les gens qui sont férus d'informatique ne sont pas à ce niveau de détail, quoi.
Ouais, mais c'est ce niveau de détail qui te permet quand même après de comprendre les impacts, par exemple, sur Bitcoin, de la Chine, des mineurs chinois, sur le reste du réseau. Ça a quand même son importance.
Clairement, il y a plein de petites informations en fait à décortiquer. Ça prend beaucoup de temps parce qu'effectivement, on va trop vite à des conclusions qui sont fausses et c'est problématique pour ces réseaux parce que du coup, ça crée pas mal de mythes et ça demande énormément d'énergie, même plus d'énergie, à déminer tout ça qu'à les créer.
Mais alors d'ailleurs parlons d'un mythe parce que donc j'ai lu pas mal de choses sur le fork, donc le hard fork de Ethereum, et j'ai cru comprendre, mais alors je peux me tromper, que comme par magie, quand tu possédais en gros un Ether, du fait du fork, au final tu te retrouvais avec deux Ethers, un Ether classique et un Ether tout court.
Ouais, alors ça c'est ce qu'on appelle le replay attack, mais c'est pas vraiment une attaque, il n'y a pas d'acteur malicieux, c'est juste une mauvaise implémentation du hard fork. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'équipe de développeurs a implémenté le hard fork, ils se sont dit que la chaîne Homestead qui allait être abandonnée ne serait pas supportée. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc effectivement, ça pose aussi tout un tas de questions là-dessus, et c'est des informations qui sont croustillantes à connaître parce que aujourd'hui, si vous aviez des Ethers pré-hard fork, lorsque vous faites un mouvement financier sur une chaîne, elle se retrouve répliquée sur l'autre chaîne. Ce qui est important parce que si par exemple vous avez l'impression de dépenser, je sais pas moi, un Ether classique qui vaut aujourd'hui à peu près 1,50$. En fait, vous dépensez un Ether qui vaut, alors je sais pas combien ça vaut actuellement, mais peut-être entre 10 et 15.
11,41.
Voilà, 11,41. Donc en fait, vous dépensez plus que ce que vous pensiez dépenser, puisque en réalité, vous dépensez un Ether classique et en même temps un Ether.
Les deux sont quand même liés par contre, on peut pas les différencier.
Alors, si, il y a un contrat à activer qui vous permet de différencier ensuite les deux chaînes, mais il faut le faire. Et c'est là aussi, encore une fois, le taux de participation est difficile à mesurer.
Juste pour préciser, Homestead, c'est un des... Enfin, les gens qui ont écouté l'épisode précédent savent ce que c'est, mais globalement, tu peux dire que Ethereum a plusieurs phases et que
alors, ça a commencé,
il est déjà prévu dans le calendrier.
Ça a commencé avec Olympia. Olympia, c'était une sorte de POC. Et ensuite, on a répliqué Olympia et on a créé Frontier. À partir de Frontier, qui est la première mise à jour, qui était une mise à jour de une mise à jour développeur, même pré-développeur, on a forqué Frontier pour Homestead. Et le plan, c'était ensuite de faire, il me semble, deux autres forks. Alors, je ne sais pas si c'était des soft ou des hard forks, c'était pas clair. Et ensuite, après ces forks-là, donc après Homestead et ces deux autres forks, on était censé intégrer Metropolis, qui doit apporter une version plus user-friendly de Mist, l'Ethereum Browser. Et après Metropolis, c'était Serenity. Mais bon, de toute façon, Vitalik avait expliqué que la roadmap serait unlimited. Donc, c'est un master plan première partie.
Et donc en fait, tous ces noms de code veulent dire 1.0, 2.0, 3.0, Service Pack 1, etc.
C'est comme à peu près
pour les auditeurs.
Oui, non, ils sont à 1.4, 1.5, parce que l'Ethereum 2.0, c'est encore plus loin, c'est encore plus fou.
Ouais, mais c'est quand même dingue parce que je sais plus quel terme tu as employé tout à l'heure. Moi, je dis la peinture n'est pas encore sèche, mais on est sur des solutions qui sont en train d'évoluer, mais profondément. Et pourtant, là, je regarde Bitcoin, bon, c'est quand même plus solide, mais c'est 10 milliards de dollars. Ethereum, c'est pas loin d'un milliard de dollars. C'est quand même des sommes qui sont énormes pour des solutions qui ont des failles de sécurité, mais qui sont exploitées, qui sont vraiment encore en train d'évoluer. ça me paraît quand même délirant. C'est
pas
valeurs.
Si énorme que ça, hein. C'est moins qu'un client de messagerie instantanée.
Comparé au marché des dérivés, c'est ridicule. Comparé au marché de l'or, c'est ridicule aussi.
Ah oui, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement plus récent et c'est tellement pas encore maîtrisé.
Mais finalement, tu sais, tu as des logiciels financiers, enfin, des trucs dont on ne saura jamais à quoi ça sert, à part escroquer les gens, comme les trucs microsecondes, je ne sais pas quoi, là, trading haute fréquence. Trading, ouais. Le trading à très haute fréquence, c'est aussi des logiciels buggés jusqu'à la moelle qui font encore plus que les milliards que tu viens de citer. Oui, et donc finalement ben il y a un vrai problème beaucoup plus général des logiciels avec des failles qui gèrent trop d'argent.
Sauf que je sais pas ce que ça s'appelle, le fast trading là, trading à haute fréquence, à haute fréquence, il y a quand même, c'est quand même sur des bourses avec un régulateur, avec des gens qui contrôlent.
Enfin ça c'est virtuel, hein. C'est il y a plus personne qui contrôle rien et ça n'a aucune utilité fondamentale.
Ils peuvent arrêter les cours. Là t'arrêtes pas la blockchain. Enfin si on
oui,
le
oui. Oui. Mais... Ouais, ils ont été obligés d'arrêter les cours lorsqu'il y avait des gens qui divulguaient des fausses informations. Mais
ça dépend. Mais finalement, aussi, oui. Ça dépend aussi du protocole parce que si par exemple aujourd'hui. On parle souvent de blockchain public, blockchain privé. Il faut comprendre que parler de blockchain privé, c'est un oxymore. Il n'y aura jamais de blockchain privé. Sauf certains use cases, c'est justement le use case du trading haute fréquence peut-être intéressant. Mais si vous créez une plateforme, un protocole pour justement résoudre le problème du haute fréquence, vous allez vous retrouver avec un protocole de validation qui va avoir ses propres caractéristiques. Donc tu peux l'arrêter en fait. Si tu regardes par exemple Hyperledger, qui n'est pas vraiment une blockchain, mais qui est décrit comme étant une blockchain, bah, tu as des mises à jour qui sont fréquentes, donc tu as des interruptions du réseau. Donc faut faire attention à tout ça.
Je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur le blockchain privé, parce que pour moi, les blockchains privées, il y en a aujourd'hui. Et par le sens privé, pour moi, c'est juste entre certaines personnes, dans des réseaux fermés et entre elles. Entre certaines banques, par exemple, qui commencent à le tester, mais qui ne sont juste pas publiques, donc pas accessibles sur Internet ou partout.
Alors, pour moi, oui, c'est effectivement, ça le sens de privé. D'ailleurs, en fait, c'est juste la dénomination qui est trompeuse. C'est qu'il ne faut pas parler de privé ou de public. Le champ des possibles est tellement large. En fait, il faut l'indexer par rapport au niveau de permission. C'est beaucoup plus clair, en fait. C'est-à-dire que tu as des réseaux qui, par exemple, démarrent comme étant des réseaux dits sans permission, comme Ripple, et qui, au fur et à mesure des mises à jour, deviennent de plus en plus permissives. Donc, c'est parler de permission. Dès que vous avez une permission, bah, vous êtes dans une sphère privée. Mais c'est vrai que si vous compilez, je ne sais pas moi, un fork de Bitcoin et que vous êtes le seul nœud dans votre chambre, bah, on peut parler de blockchain privée. Mais est-ce que c'est une véritable une utilité ? Est-ce qu'il y a une véritable écosystème derrière, communauté ? C'est la question, quoi. Si tu as une blockchain, et tu as la meilleure des blockchains, mais qu'il n'y a personne qui l'utilise, la boîte privée, ça ne sera pas utilisé tout simplement.
Non, mais par exemple, pour du privé, typiquement, on pourrait imaginer, parce que c'est en réflexion, les banques qui remplaceraient les réseaux SWIFT par un réseau de blockchain qui resterait donc privé, puisque sur des réseaux interbancaires, donc pas accessible à n'importe qui, pas public. Et donc, c'est là que je vois le sens privé, dans le sens entre...
De ce que je peux te dire, c'est que ça ne se fera jamais. Et en fait, le vrai problème, c'est que si effectivement, la particularité de ces systèmes-là, c'est l'unicité. Mais si tu as une certaine unicité, que toutes les banques utilisent la même plateforme, alors qu'elles sont en concurrence, du coup, quelle est leur valeur ? C'est ça le problème. Ils sont déjà en train de discuter de tout ça, et si ça avance pas, c'est pour une bonne chose.
Ce que je voulais quand même revenir sur la question de la sécurité, de ce qui s'est passé avec le DAO, et je pense qu'il est important à comprendre, c'est que le protocole en lui-même n'a pas été ni attaqué, ni il n'y a pas eu de vulnérabilité qui a été utilisée. La vulnérabilité, elle était dans un code qui a été déployé sur le système. C'est quand même très différent. Donc, quand on parle de la jeunesse du système, c'est vrai. On a parlé de il y a 2 ans, c'est pas très long. Mais le protocole en lui-même n'a pas été... on n'a pas découvert de vulnérabilité sur le blockchain Ethereum en tant que tel aujourd'hui.
Ouais, mais après, il y a un effet d'image. Parce que si tu regardes bien, effectivement, il y a une différence entre les blockchains, Ethereum et DAO, qui est un sous-ensemble d'Ethereum. Mais si tu regardes au moment de l'attaque sur la DAO, quand tu regardes la valorisation de la crypto-monnaie Ethereum, ça a pris une claque énorme et ça a chuté, alors que c'était pas Ethereum, c'était un sous-ensemble qui est la DAO.
Totalement.
Mais donc il y a un effet d'image et de panique important quand même.
Totalement, et c'est parce que l'image, elle est mélangée dans toutes ces choses qui sont la blockchain, la machine virtuelle qui tourne sur cette blockchain, qui est finalement la Ethereum Virtual Machine, et ensuite le projet qui a ramassé, je crois qu'on parlait de 10% de tous les Ether qui étaient en circulation à ce moment-là, ou même plus. Donc en fait, il y a eu des impacts qui... où on s'est posé les questions aussi, parce qu'on parlait avant de Proof of Stake, qui est donc où on peut miser sur les prochains blocs, et on s'est dit que quel sera l'impact sur un tel système si une personne malveillante a environ 5% de la monnaie en circulation.
Ah, attention, il faut développer aussi l'antithèse, parce qu'en fait, aujourd'hui, si le Proof of Stake se trouve, si on l'implémente maintenant, là, tout de suite... tu te retrouves aussi avec d'autres acteurs qui vont aussi faire le consensus. T'as l'Ethereum Foundation, ils pourraient faire 3,5% des blocs. T'as Polnex qui est un exchange, qui est d'ailleurs l'exchange qui est un peu fautif de la création d'Ethereum classique, qui lui me semble avoir 5 ou 8%, pourrait faire 5 ou 8% des blocs si aujourd'hui le Casper était intégré. Donc, en fait, l'attaquant n'est pas si seul que ça. Il y a d'autres acteurs qui peuvent aussi faire le consensus. Et ça, c'est aussi problématique.
Oui, oui, mais la réputation de Poloniex face à l'attaquant de DAO n'est pas la même. Et en fait, c'est plutôt ça qui crée le stress par rapport à ça. C'est qu'une personne qui a attaqué un projet a une réputation moins bonne que la fondation qui a créé le projet.
Mais qui dit que ce n'est pas un employé de Poloniex, par exemple. Parce qu'on ne sait pas qui est ce profiteur. C'est le genre de questions aussi qu'on peut se poser. Et c'est là où, en fait, tu te retrouves complètement manipulé. Il faut vraiment arriver à se dire, bon, bah d'accord, ces systèmes-là sont très intéressants, mais il ne faut pas les prendre trop au sérieux non plus, parce qu'on voit des gens qui prennent ça au sérieux et ensuite qui se retrouvent complètement déconnectés de la réalité. Ces systèmes-là, ces actifs-là, sont qu'arbitraires. Si tu veux y mettre de la valeur, tu y mets, vas-y. Mais ils sont aussi fongibles, c'est-à-dire que tu peux t'en sortir aussi très rapide, très facilement.
Oui, oui, mais 1 milliard de valuation, c'est relativement sérieux quand même.
Ah oui, c'est très sérieux.
Non, pour paraphraser une personne qui n'est pas là ce soir, je vais reprendre une phrase qu'il avait dite, c'est « tout ça, c'est du vent ou plutôt de l'éther ».
Non, mais c'est pareil pour Bitcoin. Ça vaut rien, hein. C'est...
Ça vaut rien, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'économies parallèles. Enfin, tous les ransomware demandent des bitcoins, donc il y a quand même maintenant il y a un écosystème autour. Il y a une forte résistance au changement dans le monde bitcoin. Il y a plein de Chinois qui ont compris qu'ils avaient beaucoup à perdre si ça disparaissait. Donc il y a des gens qui se lèveront pour défendre bitcoin s'il faut. Quoi. Ouais. C'est pas comme une expérimentation sur un coin de table qui peut disparaître.
Bah, sur un réseau social, ça a commencé comme une expérimentation. Hein. C'était pas dit que Bitcoin devienne ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Savoir qu'entre 2009, janvier 2009, au moment où le réseau a démarré, et 2010, il y avait que 2 ou 3 personnes qui faisaient le consensus. Il y avait très peu de nœuds. Et donc, c'est vrai que c'est un effet de réseau qui a permis à Bitcoin d'exister. Mais. Au départ, c'était pas gagné. Et des expériences telles que Bitcoin, il y en a des précédentes qui sont même très proches en termes d'architecture de Bitcoin. Ça aurait pu être Airpo, ça aurait pu être BitGold, ça aurait pu être Bimonet, ça aurait pu être d'autres systèmes comme ça hein, qui auraient pu devenir le Bitcoin. Mais bon, voilà, ça a été Bitcoin.
Et je reviens quand même sur le coup du Ethereum en disant oui, il n'y a pas de faille dans Ethereum, c'est la faille, elle est dans les contrats. Bon, ça me semble un peu facile, quoi. C'est un peu comme dire, il n'y a pas de faille dans le web, la faille, elle est dans les développeurs, et c'est là où il y a des XSS, quoi. Bon, en même temps, quand tu as 99% des applications qui ont des XSS, tu te dis qu'il y a quand même peut-être un problème.
Alors, tout à fait. Alors, le fait que le protocole n'avait pas de vulnérabilité ne veut pas dire que ni la fondation, ni les membres en général de l'écosystème Ethereum n'ont pas pris au sérieux ce qui vient de se passer. On a, pour les citer, Microsoft ont lancé un groupe de recherche sur la vérification formelle des smart contracts et la sécurité en général des smart contracts. Il y a la Fondation Ethereum qui a lancé et qui a travaillé avec plusieurs universités maintenant pour essayer de pousser en avant. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, jusqu'avant, je pense que Ethereum était un petit peu naïf et La La Land, tout va bien, on va écrire du code et on va conquérir le monde comme ça, et se rend compte que c'est un sujet beaucoup plus important que ce qu'ils pensaient à la base. Et il y a un réel intérêt aujourd'hui à créer les outils pour ne pas se tirer dans le pied et éviter de créer des vulnérabilités telles que ce qui s'est passé dans le DAO.
Mais après, moi, j'ai une question qui rejoint finalement une émission de No Limites Sécu sur le développement applicatif. C'est aujourd'hui le choix a été fait pour Ethereum d'avoir des smart contracts développés en Solidity qui, pour faire simple, est du JavaScript. Est-ce que ce type de langage est vraiment adapté aux smart contracts et à ce type de besoin? Parce que tu peux faire des erreurs qui sont quand même classiques chez les programmeurs. Et est-ce que c'est vraiment adapté?
C'est une grande question. Il y a une grande discussion dans la communauté autour de ça. Il y a forcément les amoureux du fonctionnel qui essaient de pousser ce genre de langage dedans. Aujourd'hui, l'approche est plus de se dire, si on arrive à avoir un langage qui peut être formellement prouvé comme étant juste, c'est un langage qui peut être bon. Mais c'est, comme on a dit, il y a encore des versions en cours. Hein, on est à Homestead maintenant, on va être à Metropolis et Serenity. Dire que c'est 1.2, 1.5, malheureusement, ce n'est pas forcément juste. C'est plus juste de dire 0.5, 0.7, à mon avis. Dans le sens où, justement, toute la partie smart contract est encore en grand développement, puis il y a encore beaucoup de choses à faire.
Alors, à quand les smart contracts en HQL?
Mais techniquement, c'est du bytecode, donc tu peux écrire dans ce que tu veux. À partir du moment où tu as un compilateur qui produit le bytecode, ça marche?
Totalement. C'est-à-dire, et aujourd'hui, il y a... je me rappelle plus. Il y a même des prouveurs en coq pour pouvoir prouver que le code ne fait pas ce genre de d'erreurs et tout ça. Donc ils se sont lancés dans tous ces trucs pour pouvoir prouver que les codes sont corrects. Et même aujourd'hui déjà, les dernières versions du compilateur ne laissent plus mettre des warnings ou même carrément des erreurs de compilation si on insère la même vulnérabilité que ce qui s'est passé dans le DAO. Donc, il y a des avancées, mais de dire qu'aujourd'hui, coder en Solidity est sûr, je ne m'avancerai pas jusque-là. Il y a encore du chemin à faire.
Bon, et donc là, maintenant, puisqu'on parle de code, je vais lancer la question à laquelle on essaie de répondre. On devait répondre depuis le début, c'est est-ce que le code, c'est la loi? En fait, quels sont les arguments des gens qui étaient pour le fork et les gens qui étaient contre le fork?
Alors, les gens qui sont donc pour le fork et qui donc ne voulaient pas prendre à la lettre l'idée que le code, c'est la loi, avançaient l'idée que l'intention du code a quand même son importance et que si il est clair que l'intention du code n'était pas de faire ça, donc c'est ce qu'on appelle exploiter une vulnérabilité. Et donc, il y a l'autre camp qui dit que non, vu que c'est dans le blockchain et qu'il ne faut pas d'intervention humaine, le code, c'est la loi. Et si on a mis une vulnérabilité, ça voulait dire qu'on ne savait pas ce qu'on était en train de dire, mais que c'était quand même ce que ça voulait dire.
C'est ce qu'on appelle « sorry for you loose ». C'est quand vous êtes, par exemple, quand vous êtes utilisateur de Mongox, vous avez perdu vos bitcoins. Moi, je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont perdu leurs bitcoins à cause de la débâcle de Mongox. Ils ont fait une croix dessus, voilà. Alors qu'on aurait pu très bien mettre en place une implémentation pour récupérer ces bitcoins et les reverser à leurs propriétaires respectifs.
Enfin, à partir du moment où tu es capable d'attribuer le bitcoin à une personne donnée, quoi.
Bah, tu la renvoies à l'adresse correspondante, tout simplement. Mais
votre truc, ça ressemble quand même vachement à du Far West. C'est le Far West, c'est la loi du plus fort, la loi du plus...
Non, mais ça montre les limites de la confiance que l'on peut faire dans du code produit par des humains. Et on se rend compte que, on commence à avoir du code dans des choses de plus en plus sensibles et risquées. Il pourrait y avoir des accidents gravissimes qui atteignent la vie de milliers de personnes. Et puis là, on se rend compte que, c'est du code qui crée la monnaie. Ah ben mince, si le code, il a une faille, je pense qu'il y a un sérieux travail à faire pour avoir confiance
Alors attention, parce qu'il y a différentes couches, hein. faut pas non plus tout entremêler. Par exemple, faire un amalgame là, entre Bitcoin et Ethereum, c'est très néfaste. Sur Bitcoin, le langage de transaction est Bitcoin Script. Et c'est un langage à pile, c'est pas un langage Turing complet. Donc ce genre de vulnérabilité qu'on peut voir sur Ethereum avec The DAO, qui est l'exemple actuellement, ne peut pas se reproduire sur Bitcoin. Sur Bitcoin, c'est un langage qui est très restrictif. D'ailleurs, c'est pour ça que Vitalik a commencé à réfléchir sur l'Ethereum, sur le VM. Le but de Vitalik, c'était vraiment de mettre en place un langage Turing complet dès la première couche protocolaire. Sur Bitcoin, si tu veux faire des applications un peu plus poussées, il faut que tu aies du temps, il faut que tu aies des compétences pour développer des méta-protocoles qui, en plus, vont devoir être dédiés à des tâches. Donc, c'est un peu pain in the ass comparé à Ethereum. La promesse d'Ethereum, c'est vraiment de faciliter tout ça. Donc, faut pas faire l'amalgame. Bitcoin Script est restreint, et il est restreint pour des questions de sécurité. Ce qui s'est passé sur Ethereum ne se passera pas sur Bitcoin. D'ailleurs, aussi, il y a un autre point qui est important, c'est le système des comptes. Sur Ethereum, le système des comptes n'a rien à voir au système des comptes sur Bitcoin. Et donc, il y a certaines choses sensibles qui pourraient se produire sur Ethereum qui ne se produiraient pas sur Bitcoin. Donc, c'est vraiment deux systèmes qui sont appelés blockchain, mais c'est pour moi vraiment un terme néfaste. Il faut vraiment parler de protocole de registre distribué sans permission et ensuite de lister les technologies utilisées et l'architecture. Ça permet d'y voir beaucoup plus clair. Parce que faire un amalgame et dire que Bitcoin c'est une blockchain et qu'Ethereum c'est une blockchain et que finalement toutes les blockchains sont comme ça, c'est un peu trop s'avancer.
Ouais, en fait, la question de fond, c'est est-ce que il y a de l'intervention humaine dans ces blockchains ou est-ce qu'il ne doit pas du tout y en avoir? Et s'il y en a, du coup, après, est-ce que ça devient des autorités, enfin, des, comment on appelle ça, des fiduciaries,
un régulateur,
des fiduciaires.
Non, des institutions financières, et que donc c'est soumis à des législations diverses et variées. Parce que si on prend le cas du high frequency trading, par exemple, quand il y a un bug et que d'un seul coup, il y a un flash crash et qu'en une seconde, tout le monde a tout perdu, du coup, le régulateur intervient et dit on repart des cours de ce matin à l'ouverture.
Alors, concernant la régulation,
tout le monde reprend ses billes, quoi.
Concernant la régulation, il faut vraiment comprendre que ces systèmes-là n'ont pas besoin de régulation au-dessus. De toute façon, la régulation dessus ne pourra absolument rien faire parce qu'elle sera ignorée. En fait, ces systèmes s'auto-régulent déjà. Hein. Ce sont des protocoles. Donc, il y a des règles. Et en fait, ces règles, on peut déjà les percevoir comme étant des sortes de premières constitutions numériques. Ensuite, c'est la différence par rapport à une constitution telle que la constitution française, c'est que ces règles peuvent effectivement être réécrites. Et en fait, là aussi, pareil, c'est un peu comme dans les systèmes actuels, c'est un peu ce sur quoi je suis en train d'étudier actuellement. C'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si ces systèmes sont des nouveaux outils de pouvoir qui vont remplacer les anciens outils de pouvoir tels que la religion ou ce qu'on appelle les démocraties représentatives. Voilà, donc ça pose tout un tas de questions concernant la régulation. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous avez des règles. Et lorsque vous rentrez dans un réseau, si vous suivez ces règles, vous êtes dans le consensus. Si vous ne suivez pas ces règles, vous êtes hors consensus. Maintenant, il faut voir plus loin que le protocole. Il faut vraiment voir derrière le protocole et il faut voir l'écosystème. Dans un écosystème comme Bitcoin, qui a plus de 7 ans de développement, il y a plusieurs rapports de force entre les types de populations. Donc effectivement, on peut considérer ce protocole-là comme, on va dire, décentralisé. Sur Ethereum, c'est un peu moins le cas. Comme disait David, la communauté, c'est des exchanges, c'est les développeurs de la fondation, et puis on a des développeurs et des utilisateurs de l'autre côté. Donc c'est un peu plus centralisé. Pour moi, le problème avec Ethereum, c'est la communication. C'est-à-dire que Ethereum communique sur le côté virtual machine, smart contract, alors qu'en fait, Ethereum, c'est de la monnaie, c'est un système de paiement aussi. Et en fait, ils se coupent une jambe tout simplement, alors qu'avec un argument comme un système de paiement intégré dans le protocole, ce qui est en fait le cas, il pourrait avoir une communauté beaucoup plus développée et justement un nouveau rapport de force qui permettrait vraiment d'un peu plus décentraliser le système. Enfin, ça, c'est mon analyse personnelle sur la question.
Mais Vitalik a justement, au début de ce projet, mis en avant de manière très claire qu'il ne voulait pas que Ether devienne ça. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, Ether est devenu une source de spéculation, tout d'abord parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de projets sur Ethereum, et donc la plupart des gens n'ont rien d'autre à faire avec leur Ether que de se les passer les uns les autres et espérer gagner de l'argent. Mais l'idée de Ether à la base est d'être l'essence pour le gaz qui est donc l'exécution sur la machine virtuelle. Et il y avait même un plan de base de pouvoir payer le gaz avec n'importe quelle monnaie, qui aujourd'hui a été plutôt mis de côté pour des raisons de complexité. Mais l'idée était justement d'être beaucoup plus concentré sur l'idée de cet ordinateur du monde, de World Computer, et moins sur la partie Bitcoin qui est la partie monnaie.
Oui, alors ça c'est totalement vrai, mais on peut voir aussi que sa position a un peu évolué depuis le DAO Zaster. Il présente vraiment plus ça comme étant une machine virtuelle, il présente ça plutôt comme étant une blockchain, parce qu'en même temps les mœurs sont aussi parallèlement évoluées.
Tout dépend, il a beaucoup d'éther, parce que vu la valorisation, effectivement il peut changer d'avis. Hein.
Ah là, j'en ai aucune idée.
Alors, je ne sais pas combien il a d'Ether, mais il y avait eu toute une histoire où il avait envoyé un tweet comme quoi il avait vendu 25% de ses Ether parce que le cours était bon, ce serait stupide de ne pas se faire d'argent. End of quote. Et ça avait fait beaucoup de bruit, mais finalement, il a travaillé sur le projet, il était dans les débuts, il a touché ses Ether, on ne peut pas vraiment...
Alors, pour revenir au sujet principal du code ISLO actuellement, c'est un sujet qui est très houleux et je pense que c'est un débat qui sera un peu sans fin. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'éléments aussi à introduire parce qu'effectivement, qui dit débat, dit définition, dit glossaire. Et il faut se mettre d'accord un peu sur toutes les définitions avant de commencer à débattre. Je pense que c'est le sujet de ces 20 prochaines années à venir. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une société ou même des sociétés qui vont être plus basées aujourd'hui sur justement Bitcoin, voire Ethereum, parce qu'on ne sait pas comment on va finir Ethereum, mais c'est vrai que moi, Ethereum, j'ai toujours pris ce projet-là avec des pincettes, un des premiers investisseurs, mais quand même aussi avec des pincettes, et on ne sait pas comment ça va évoluer. Pour moi, la meilleure porte de sortie pour Ethereum, ce serait de se transformer en sidechain. Sauf qu'aujourd'hui, les sidechains, c'est encore en alpha, c'est encore en test, ça fonctionne, ça tourne, mais c'est pas encore fonctionnel.
Pour les auditeurs, tu peux expliquer ce que c'est qu'une sidechain ?
Alors, une sidechain, c'est une chaîne qui se retrouve être chevillée sur une chaîne principale. Techniquement, c'est possible de transformer n'importe quelle chaîne flottante, dit altcoin, sur une chaîne telle Bitcoin. Ça permettrait de récupérer certaines propriétés de Bitcoin. Donc, tu te retrouves avec une sidechain, des sidecoins et deux chaînes qui communiquent.
Oui, enfin ça, du coup, c'est la myriade des monnaies virtuelles qui sont convertibles en rien du tout, les Dogecoin et Litecoin et autres, qui n'ont aucune raison d'exister, enfin qui ne sont pas pérennes.
Alors non, le but des sidechains, c'est de pouvoir prototyper très facilement, très rapidement, tout en gardant un système sécurisé, dans un environnement sécurisé. Si tu fais une sidechain sur Bitcoin, ça sera beaucoup plus sécurisé que si tu fais un altcoin, et que tu te remets à construire tout depuis le début from scratch. Le deuxième élément, c'est qu'ensuite, comme tu récupères toutes les certaines propriétés de Bitcoin, ça a tout d'un coup un tout petit peu plus de valeur qu'un shitcoin, comme on pourrait appeler ça dans le jargon. Oui, effectivement, là tu ouvres de nouvelles possibilités. Tu pourrais peut-être, imaginer des sidechains. Par pays ou par région ou par utilisation ou par application, etc. Donc en fait, on est vraiment aujourd'hui au tout début, aux prémices de ces technologies, je dirais même de Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de blockchain, mais quand on t'explique la blockchain, en fait, on t'explique Bitcoin. On te dit la blockchain, c'est un nouveau bloc toutes les 10 minutes, c'est Bitcoin. On te dit que la blockchain, c'est sécurisé par de la proof of work, il te faut de la puissance de calcul, c'est Bitcoin. On te dit que sur une commission, enfin sur les transactions, tu as des commissions, c'est Bitcoin. Le problème, c'est que la blockchain, c'est un peu un mot fourre-tout aujourd'hui, et ça part, comme je dirais, hein, je vais pas me censurer, je trouve que ça part en couille.
Non, c'est du hype. C'est comme tous les mois à la mode.
C'est le début.
C'est comme IoT. Mais est-ce qu'il y a vraiment des applications pratiques? Enfin, j'ai quand même l'impression que blockchain, à part avoir lu ça dans un entrefilet du 20 minutes, les gens, ils ne sont jamais confrontés à une blockchain dans la vraie vie.
Pour blanchir l'argent, pour récupérer les rançons des rançons logicielles, enfin, c'est vachement utile quand même.
Il y a un nouveau pays qui est en train de se mettre en place. Je ne veux pas me tromper, il s'appelle LiberCity ou Liberland ou quelque chose comme ça. C'est un terrain non disputé entre la Serbie et la Croatie. Et j'ai entendu qu'il y a plein de libertarians et genre des ultra-libérales et des amoureux de Bitcoin qui vont là-bas. Et il y en a même un qui met tout son argent pour avoir construit un aéroport là-bas pour que les gens puissent y aller. Donc, il faut croire que le Bitcoin et la blockchain, ça crée même des États.
Ouais, c'est juste parce que tu payes les gens. Tu les payeras avec des diamants ou avec de la farine, je veux dire, ils viendraient. Mais ça ne crée pas un projet de société
Je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même vu les opportunités de se passer du réseau central ERDF pour les échanges d'énergie. Donc l'idée, c'est qu'au lieu que tout le monde doive passer par ERDF pour revendre sa production énergétique locale et puis pour la consommer, eh ben, on peut imaginer avec une chaîne de blocs des échanges directs entre des gens qui sont dans le même coin et certains, je sais pas, qui ont du vent à un moment donné, d'autres qui ont du soleil, et ces gens-là s'échangent de l'électricité qu'une chaîne de blocs. Ça, ce serait, je sais pas, une application utile, quoi.
Ça, j'en ai discuté. Par exemple, ça, en Allemagne, c'est interdit. Donc, en fait, comme c'est permissionless, enfin, après, ça dépend de quelle chaîne de blocs tu parles. Si tu parles de Bitcoin, c'est permissionless. Ethereum, pareil. Quoique, avec l'intervention maintenant, l'ouverture de la boîte de Pandore, on ne sait plus trop. Ça, c'est interdit. Donc,
en France, il y a...
Est-ce que ça peut vraiment être mis
en France, il y a un décret qui l'a autorisé.
J'ai lu un décret, mais c'est un décret concernant justement les mini-bons et pas l'IoT ou lié à l'écologie. Donc je ne sais pas de quel décret tu parles.
J'ai plus en tête, hein, mais encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Moi, j'ai vu ça comme un citoyen qui trouvait ça marrant.
Je ne suis pas sûr pour l'Allemagne, mais je suis un peu étonné parce que je sais que... justement, Gavin Wood, qui est un des fondateurs de Ethereum et qui a lancé sa boîte Edcore, est sur un projet qui s'appelle Singularity quelque chose. Désolé de ne pas me rappeler exactement du nom, mais qui est exactement ça, en fait. L'idée, c'est de créer un marché décentralisé d'énergie où ils essayent de pouvoir optimiser l'utilisation d'énergie entre les gens et qu'on puisse simplement créer de l'énergie. L'énergie renouvelable et l'utiliser.
C'est-à-dire qu'en Allemagne, c'est déjà assez développé. Et en fait, quand tu es particulier, tu n'as pas le droit de revendre ton énergie. Tu es obligé de la revendre directement à l'opérateur national. Donc, à mon avis, je pense que ce genre de projet permettrait justement de faire bouger peut-être les régulateurs. De toute façon, que les régulateurs soient contents ou pas, comme c'est permissionless, rien ne t'empêchera de le faire.
Est-ce que vous voyez des choses à ajouter?
Je voulais juste dire que au-delà du bug qui s'est passé dans le DAO, je pense que une des expériences qu'ils ont voulu faire, vu que le sujet est quand même la gouvernance, est justement la grande question de est-ce que les gens, des milliers de personnes qui ont quelque chose à perdre dans un projet, peuvent se mettre d'accord pour décider des choses. Et je pense que c'est un sujet que malheureusement on n'a pas pu voir avec le DAO, qui reste ouvert, et que je pense que la grande question, mais aussi la grande opportunité de système, surtout comme Ethereum, où justement on peut coder des smart contracts qui sont assez complexes, ouvre une opportunité très intéressante, mais avec des risques très grands qu'on a pu voir, de gestion, de collaboration entre les gens, que ce soit dans la société, mais aussi commerciale. On peut imaginer des entreprises qui créent des projets ensemble et qui se mettent d'accord avec un contrat et que le contrat soit appliqué de manière automatique et qu'ils ne doivent pas avoir un manager et un CFO au milieu pour s'assurer que les gens soient bien payés de la bonne manière.
Ah, oui, c'est une très bonne question. Si je peux juste rebondir là-dessus, c'est pour moi c'est le sujet principal, c'est-à-dire c'est les langages de transaction, même les langages de programmation, ça devient un enjeu très important. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas ces langages, si vous ne savez pas vous interfacer avec le protocole, les protocoles même, vous vous retrouvez un peu discriminé ou alors tout simplement relégué. Il faut vraiment comprendre qu'avec l'apparition de Bitcoin et d'Ethereum, c'est une nouvelle classe sociale qui est en train d'apparaître, ce que j'appelle moi personnellement des disruptarians, qui sont aujourd'hui progressistes et qui, une fois ces protocoles bien installés dans la société, se retrouveront conservateurs. Il faut vraiment comprendre que les États aujourd'hui sont dans la même situation que l'Église d'il y a 1000 ans. Aujourd'hui, les États n'ont pas le choix, ils sont en train de le comprendre petit à petit. Alors, ils sont encore un peu dans le déni, mais ça va arriver. Ils vont devoir coexister avec ces systèmes et en même temps, ces systèmes sont antifragiles, donc ils se développent et on ne peut pas freiner leur développement. On le voit avec le Japon qui s'alarme et qui appelle justement à une sorte de régulation internationale. Mais ça va être très compliqué. Donc pour vraiment, vraiment avancer, je pense qu'il faut, il faut aujourd'hui, c'est un requis de base, il faut savoir coder. C'est primordial. Il faut savoir coder, tout comme il y a 200-300 ans, il fallait savoir parler français. Et si on parlait son petit patois dans sa petite région, ben on se retrouvait un peu exclu justement de participer à tout simplement même de se présenter à une élection. Donc c'est ce genre d'enjeu en fait qui se répète, mais avec l'apparition du numérique.
Wow. Ça laisse rêveur.
Non mais c'est pas grave, les gens l'apprendront à l'école. Bon bah c'est bien comme conclusion ça. Hein, donc il y a intérêt à apprendre le JavaScript dès la maternelle. Hein.
Oh, c'est easy.
Pour pas se faire voler son argent.
Mais je pense oui que la programmation c'est le nouveau savoir lire et écrire.
Ouais, je pense pas. Je pense que les outils vont se simplifier et qu'un jour tu auras une espèce de carte de crédit ou à puce sur laquelle tu auras tes bitcoins et tu pourras payer en bitcoin chez le boucher. Voilà.
Alors, oui, c'est sûr que ça sera aussi simple.
Tu n'auras pas besoin de coder, tu n'auras pas besoin de savoir programmer.
Ouais. En fait, c'est déjà le cas. Hein. Tu as la carte Xapo, par exemple, qui te permet d'adosser en fait, tes adresses Bitcoin à une carte de crédit qui passe ensuite par le réseau Visa, American Express, etc. Donc, aujourd'hui, tu peux voyager partout autour du monde avec tes Bitcoins. Un élément important à dire, c'est qu'ils prennent aussi une commission de transaction. Donc, il faut quand même aussi avoir pas mal de Bitcoin. Mais voilà, c'est possible. Moi, je pense que la vraie conclusion, en fait, elle concernerait plutôt quel est l'avenir pour Classic. Alors, je ne sais pas si vous voulez garder ça pour une prochaine émission, mais c'est aussi important de voir un peu ce qui s'est passé avec Classic sur le fait que Ethereum Classic a eu énormément de soutien et qu'aujourd'hui, ce soutien s'essouffle. Et qu'on a quand même eu des meet-up qui se sont mis en place. Alors, ils ont été très, très taquins parce qu'ils font des meet-up en face des meet-up de l'Ethereum, enfin de l'Ethereum officiel. Et là, on a par exemple le premier, ce qu'on appelle proposal pour Classic qui vient de sortir, qui propose déjà justement des changements qui idéologiquement vont encore à l'encontre de la roadmap mise en place par l'Ethereum Foundation. Parce que...
Bon, ben, merci à tous d'avoir participé et puis j'espère que. Nos auditeurs trouveront ça intéressant.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.